Jésus, tu es le but de ma vie. Même si cela coûte beaucoup de larmes, tu dois toujours le demeurer. Les soucis souvent obscurcissent ton image. Mais malgré tout, mon désir demeure rempli de te vivre. Les nuages au ciel se retirent et ne reviennent plus. C'est ainsi que rapidement notre vie passe comme un vol. C'était alors qu'un clin d'œil. Jésus, je veux seulement que te vivre, que ta croix soit mon drapeau, jusqu'à dans toute éternité. Jésus, toi la force de ma jeunesse, je veux seulement te vivre, je veux seulement te suivre. Jésus, toi la joie de ma jeunesse, maintenant et dans toute éternité, là où il n'y aura que la jeunesse. La force de mes années de jeunesse seule, je veux les consacrer au but de ma vie. Toi, merveilleux but, tu rends la vie agréable et tu me conduis jusque dans le paradis. Jésus, je veux que te vivre. Ta croix est mon drapeau jusqu'à dans toute éternité. Jésus, toi le but de ma vie, toi la couronne de ma vie, toi mon salaire merveilleux et glorieux, ma rémunération merveilleuse et glorieuse. Solitaire et triste dans le désert, même si toute ma vie serait ainsi, si Jésus n'était pas mon but, qu'est-ce que ce serait? Les étoiles se tiennent au ciel. Elles se taisent, elles sont muettes, mais disent beaucoup. Et le monde tout de moi, c'est ainsi que est aussi Jésus le but de ma vie. Comme c'est merveilleux de savoir Jésus-Christ s'est donné à moi. Lui qui a déchiré la lettre de condamnation. Qu'il soit mon tout. Vive dans la présence de Jésus. Vive dans la présence de Jésus. C'est déjà le ciel sur terre. Quand devant ta face, nous nous tenons dans la prière persévérant. De ton cœur au Sauveur, que cela soit la solution jour après jour pour moi. Entièrement consacré et donné à ta disposition, quoi qu'il arrive. Roche de Jésus, roche de Jésus. fait déjà le ciel sur terre. Persévérant dans la prière devant sa face. Ô toi, mon bien-aimé Sauveur, délivre-moi de moi-même, de mon propre moi. Que l'œuvre et tout ce que je fais reflète ta vie. Vive dans ta directe présence. Fais déjà le ciel sur terre. Quand prosterné devant ta face, nous persévérons dans la prière. Vive dans la présence de Jésus. C'est déjà le ciel sur terre. Quand prosterné devant ta face, nous persévérons dans la prière. Amen. Merci, merci. Oui, nous voulons réellement vivre proche de lui, dans sa directe présence, très proche, mais je crois que nous devons croire ce qu'il a dit. Je suis avec vous tous les jours. Croyons-nous cela, croyons-nous qu'il est ce soir ici parmi nous. Si nous ne le voyons pas avec nos yeux, mais lui, il ne peut jamais reprendre sa promesse. Il doit l'accomplir. Et nous croyons qu'il l'a accompli et qu'il l'accomplit jusqu'à dans ses jours. Et c'est ainsi que nous voyons qu'il a toujours parlé d'une manière merveilleuse avec son peuple, aussi avec ses disciples, alors qu'il quittait cette terre, ou alors qu'il voulait quitter cette terre, et il leur a donné une consolation sérieuse et il leur a dit, comme c'est écrit dans Jean 14, de lui, nous connaissons tous ses paroles, mais toujours de nouveau, elles sont pour nous nouvelles, parce que ce sont les paroles de notre Seigneur. Et je ne crois pas que les paroles ont été seulement pour les disciples, pour les croyants autrefois, mais ces paroles sont aussi valables pour nous aujourd'hui, parce que nous sommes ses enfants tels qu'ils étaient autrefois. Nous lui appartenons, comme nous l'avons chanté, racheté par son précieux saint sang. Et ainsi notre Seigneur dit ici dans Jean 14, à partir du premier verset, que votre cœur ne se trouble point. Faites confiance en Dieu et faites confiance en moi. Croyez en Dieu et croyez en moi. Oui, il savait, oui, ce qui allait arriver. Il savait comment est-ce que tout allait se dérouler. Et il devait déjà à l'avance leur donner cette consolation. Et pas seulement à eux, mais aussi à nous. Nous ne savons pas aussi ce que chaque jour pourrait nous apporter, mais nous mettons notre confiance dans le Seigneur. Nous regardons à lui. Et c'est ainsi que ici, il a exprimé ses paroles d'avertissement à ses disciples. Que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Que votre cœur. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Jean 14, verset 2. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Est-ce que cela n'est pas merveilleux? Oh, quelle promesse! Il l'a donnée aux siens. Et nous savons que cette place est bientôt prête et bientôt il viendra prendre les siens. Il viendra nous prendre. Nous qui aimons son nom et qui mettons notre confiance en lui et qui de tout notre cœur croyons sa parole. Il viendra nous prendre. Croyez-vous cela tous? Oui, nous devons le croire. Il viendra nous prendre. L'enlèvement est proche. Le temps, les signes des temps le montrent, comme nous voyons l'état du monde. Mais nous regardons à lui et il viendra nous prendre. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Oui. Comme c'est merveilleux. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Est-ce que cela n'est pas merveilleux? Oui, c'est merveilleux. Il continue encore ici et il dit, mais cela m'a touché le cœur alors que j'avais lu la première phrase, que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Bien, faites confiance en Dieu, faites confiance en moi. Comme Paul, ce qu'il écrit aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens, le premier chapitre. Ici, il est écrit d'une manière merveilleuse. Comme il est écrit ici, nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 8, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardons comme certain notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est ainsi. Oui, ils devaient aussi apprendre, les disciples, à mettre leur confiance dans le Seigneur. Et nous aussi, nous devons l'apprendre entièrement. Mettre notre confiance, quoi qu'il arrive dans la vie, mettre notre confiance dans le Seigneur. Et nous savons que beaucoup de choses nous arrivent, à l'un plus, à l'autre moins, mais nous devons mettre notre confiance en lui. Nous ne pouvons pas mettre notre confiance et bâtir sur un homme, nous devons bâtir sur le Seigneur et sur sa parole telle qu'il a dit. Oui. Le verset 10, c'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Ça, c'était la foi des disciples, c'était la foi de Paul. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Est-ce que nous mettons notre espérance en lui? Oui, il nous délivrera. Nous devons avoir cette ferme foi. Vous, nous assistez vous-même de vos prières afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Oui, nous voulons vraiment nous tenir les uns pour les autres, prier les uns pour les autres, et le Seigneur aussi aide par sa grâce. Nous ne pouvons pas aider qui que ce soit, mais nous remarquons que Paul ici a montré aux Corinthiens la règle à suivre. Il leur a dit ce qui est à faire et nous savons aussi, nous aussi, ce qui est à faire. Nous devons prier les uns pour les autres et mettre notre confiance dans le Seigneur et nous serons aussi vainqueurs alors avec lui. Loué et exalté soit son Saint-Nom. Amen. Nous voulons nous lever pour la prière encore. Père céleste au ciel, nous te remercions de ce que nous n'avons pas besoin de regarder à un homme, de bâtir sur un homme. Nous regardons à toi, ô Seigneur, et nous savons que tu conduiras toutes choses d'une manière merveilleuse, louée et exaltée. Sois ton merveilleux nom et glorieux nom de Jésus. Que tu puisses bénir maintenant mes frères, bénis tous ceux qui sont venus de la plénitude de ta grâce. Tu sais ce dont chacun a besoin. C'est ainsi que nous regardons tous à toi, dans la foi et dans la confiance. Et nous te disons déjà merci pour ta parole ce soir. Tu nous béniras. Nous te le demandons dans ton merveilleux nom de Jésus. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Chantons ce chœur dans les petits chœurs numéro 2. Numéro 2, le chœur. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Qu'aucune bouche se ferme, mais que tous s'ouvrent. Ouvre la bouche et loue le Seigneur. Que tout ce qui respire loue le Seigneur. Il aime aider et secourir. Que tout ce qui respire loue le Seigneur. Il aime aider et secourir. Amen. Amen. Nous demandons au frère Frank. Moi aussi, je vous salue tous fraternellement dans le précieux nom du Seigneur. C'est bien de ce que nous pouvons nous réunir pour écouter la parole de Dieu et être de manière nouvelle bénis. Nous avons des salutations de beaucoup de frères, de beaucoup de pays, particulièrement le frère donc docteur Billet du Congo. Nous avons les salutations de Johannesburg, de Kapstadt, de Nairobi et de, du monde entier, de, du sud-est de l'Asie où je viens de revenir, où, et aussi particulièrement le frère Wallström, remet sa salutation du frère Barillier, de tous les frères que nous connaissons et qui aussi servent dans le ministère de la parole. Aujourd'hui, il y aurait beaucoup à dire concernant les voyages. Oui, en Indonésie et Singapour et Thaïlande, et particulièrement au Burma, le Myanmar actuel. C'est merveilleux quand Dieu ouvre de nouvelles portes et des nouveaux cœurs et de nouvelles assemblées, s'ouvre une assemblée baptiste, une école de, un séminaire de la Bible et beaucoup sont venus de loin et de près pour écouter la parole du Seigneur. Et nous en sommes très reconnaissants. Ensuite, nous avons aussi d'ici tous nos frères, nous avons à saluer tous nos frères dans tous les pays qui maintenant écoutent la parole par l'Internet et particulièrement nos amis du Lima au Pérou qui sont en souci de comment est-ce que les choses vont continuer en Amérique du Sud. Nous pouvons dire le Seigneur aura son chemin et il va régler toutes choses. Jésus est vainqueur. Ensuite, il y a le frère Manfred Krapp qui nous remet ces salutations, particulièrement au frère Rousse, et tous remettent leurs salutations. Et je voudrais aujourd'hui, à tous ceux qui sont ici pour la première fois, demander qu'ils puissent se lever. Nous voulons particulièrement les saluer cordialement. Oui. Est-ce que je devrais vous nommer de votre nom? Vous savez qu'il y en a qui pensent que ça ne devrait pas être pour que ceux qui sont là-bas n'apprennent pas qui est venu. Mais nous vous saluons tous, soyez la bienvenue parmi nous. Nous sommes, depuis le premier jour déjà, des premières heures déjà, liés ensemble dans le Seigneur et dans l'Esprit. Que Dieu vous bénisse, très particulièrement. Amen. Oui, soyez la bienvenue au nom du Seigneur. Ensuite, nous avons ici une sœur, là-bas, nous avons des frères et sœurs. Là-bas, que Dieu vous bénisse parmi nous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont là. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont là pour la première fois. Qui nous bénissent et qui soient avec nous tous. Ensuite, nous avons une très bonne nouvelle. Je ne sais pas si vous l'avez appris il y a 4 semaines. D'ici, nous avions prié pour notre frère de la Finlande. J'oublie toujours les noms. Il, le beau papa de notre frère Rosenstock, et il avait le cancer et il devait être opéré. Et je dois dire sincèrement, j'ai cru. J'ai cru que Dieu le guérit. C'était subitement comme ça en moi. Et maintenant, nous avons écouté du frère Friedrich que il est complètement guéri et qu'aucune opération n'est maintenant nécessaire, ne doit être nécessaire. C'est vraiment merveilleux. Louez soit le Seigneur. Regardez pas comme ça, incrédule. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les jours de la Bible sont là et vont être entièrement manifestés. Et nous avons aussi notre bien-aimée sœur ici. Elle disait, frère Franck, je ne peux pas vivre sans la nourriture spirituelle. Et alors que je lui avais demandé, mais dis-moi, quel âge as-tu? Elle a dit, seulement 96 ans. Seulement 96 ans. Elle me disait seulement 96 ans. Alors, bien-aimée sœur, sens-toi bien parmi nous. Et elle vient de loin, en voiture. Que Dieu te bénisse. Et je voudrais encore donner une annonce. Dieu voulant, et si nous vivons encore, et si nous sommes encore sur terre, il y a un frère qui m'a appelé, il y a à peu près 10 jours d'ici, et il disait, frère Franck, je peux donner à aucune personne sur terre, donner cette garantie que l'année prochaine, sur terre, nous pourrons être encore sur terre. Personne, il dit, je peux donner la garantie à personne que l'année prochaine, à ce temps, nous serons sur terre. Ça, nous ne pouvons pas le faire, mais si nous sommes encore sur terre, l'année prochaine, nous entreprendrons un voyage du 8 mai au 19 mai. Du 8 au 19 mai en Israël. Pensez à ça, c'est le seul temps où dans toute l'année, je peux prendre quelques jours de libre pour, avec les frères et les sœurs qui vont en Israël, avoir communion ensemble. Et chaque soir, nous avons nos réunions et tous ont été bénis. Et jusqu'à aujourd'hui, personne n'est revenu de ce voyage sans être béni. Et je voudrais aussi remercier la bien-aimée famille Méned dans cette occasion de ce que ils ont laissé leur papa et toi, ton mari, voyager avec moi durant toutes ces années. Le Seigneur a repris le frère subitement, comme nous le savons. Mais partout, je rencontre des frères qui disent, nous aurions bien voulu, nous aurons bien souhaité que frère Méned aurait pu aussi venir avec toi. Le Seigneur l'a repris pour nous. Ce n'est pas compréhensible, entièrement compréhensible, mais le Seigneur sait ce qu'il fait et qui connaît ses voies. Et nous avons à nous soumettre à la volonté de Dieu. Et je voudrais demander à nos frères et sœurs d'Orléans de nous chanter un cantique. S'ils n'ont pas encore chanté, je crois qu'ils n'ont pas encore chanté. Les frères et sœurs d'Orléans, s'il vous plaît, venez devant. Nous sommes heureux de ce que vous pouviez venir. Et chantez-nous rapidement et court un beau cantique. Et ensuite, nous allons venir à l'observation de la parole. Et j'espère pas que cela m'arrive aujourd'hui comme cela m'est arrivé dimanche à Zurich, il y a quelque chose qui m'est arrivé qui jusqu'à maintenant m'est jamais arrivé. Venez s'il vous plaît rapidement, le temps passe très vite. Voilà. Oui, venez ici. Voilà, c'est juste. Voilà.
Ni na ko shoku kwa na kwa ni u ni ni o ko.
Amen, merci. Dans notre cœur, nous avons tous pu chanter. C'est un cantique connu dans toutes les langues. Oui, en ce jour, quand le Seigneur prendra les siens, appellera les siens, nous le louerons dans toutes les langues qui existent sur terre. Nous lui apporterons la louange. Car réellement, de tous les peuples, les langues, et les nations, il a son peuple qu'il a racheté. Et tous les rachetés vont le louer. J'ai mentionné Zurich déjà tout à l'heure. Le dernier dimanche, il y a un frère qui vint à moi. Il était là pour la première fois dans la réunion. Et j'étais en train de parler avec un frère du Pakistan. Et il vient à moi. Et il me dit, vous avez prêché trop longtemps. Et je pensais en moi-même. Et je lui demandais, oui, mais êtes-vous ici là pour la première fois? Il me dit oui, mais malgré tout, vous avez prêché trop longtemps. Et je lui ai dit, mais c'est important d'écouter la parole de Dieu. Et les gens viennent de loin pour écouter la parole. Il m'a dit, mais c'est possible. Mais est-ce que vous n'avez pas entendu comment est-ce que les gens partout disaient Amen et encore une fois Amen? Et vous avez malgré tout continué à prêcher. Oui. Et alors, je pensais en moi-même. Mais c'est merveilleux. Et alors, j'ai terminé en disant, mais leur Amen veut dire que je dois continuer à prêcher. et ne pas arrêter. Ça ne veut pas dire que je dois arrêter. C'est seulement pour vous encourager. C'est merveilleux de ce que la parole de Dieu nous signifie beaucoup. Nous ne regardons pas à l'heure. Nous remercions Dieu de ce que nous pouvons venir nous réunir pour écouter sa vraie parole qui demeure éternellement. Et nous avons, le dernier dimanche à Zurich, parlé de ce que nous devons fixer nos regards sur le but. Nous devons fixer notre regard sur le but et ne pas regarder aux circonstances et aux difficultés. Et c'était en fait une prédication qui m'a, c'est à cause d'un, ce qu'on appelle un liseur, une liseuse. C'était donc dans, à l'hôtel, une petite carte qu'on met dans le livre pour lire. Et il était écrit sur cette carte, sur cette liseuse. Quand tu détournes ton regard du but et que tu regardes à l'obstacle, il t'effraie. Les obstacles sont là pour t'effrayer quand tu détournes ton regard du but. Alors, nous voulons fixer nos regards sur le but et le conserver devant nos yeux. Nous avons aussi à Zurich parlé de Pierre, alors que le Seigneur l'avait appelé. Il est sorti de la barque et il est allé marcher sur l'eau sans problème. Et c'est seulement quand il a regardé aux vagues qu'il a coulé. Il a commencé à couler. Donc, nous devons fixer nos regards sur le Seigneur. Alors, nous pourrons marcher. Et nous pourrons en marcher sûrement. Mais si nous regardons aux circonstances et aux difficultés, alors nous coulerons. Mais malgré tout, là aussi, dans cette occasion, nous voyons que le Seigneur était là et lui a détendu sa main et l'a ressorti de l'eau. Le Seigneur a pris la responsabilité parce que c'est lui qui l'avait appelé. Alors il pouvait continuer à marcher. Alors nous devons mettre notre confiance sur le Seigneur. Et si nous l'avons comme notre but, alors il sera là et il détendra le bras. Il ne permettra pas que nous coulons, que nous coulerons, mais il nous ressortira d'une manière que nous pourrons aller de l'avant, joyeux, dans la marche. Hébreux chapitre 10, nous avons ici ces pensées merveilleuses en ce qui concerne les promesses et la persévérance. Et nous avons déjà lu dans la parole d'introduction, Jean 14, « Je vais vous préparer une place et je reviens bientôt pour vous prendre auprès de moi pour que vous soyez là où je suis. » Dans le monde entier, c'est notre sujet. Le retour de Jésus-Christ et l'accomplissement des prophéties bibliques dans notre temps. Les promesses de Dieu ont été données pour que nous puissions les croire et les voir par la grâce de Dieu s'accomplir. Les promesses qui ont été données pour Israël vont s'accomplir. En Israël, ça s'accomplit en Israël. Les promesses qui ont été données à l'Église s'accomplissent dans l'Église. Et des prédictions, des annonces à l'avance qui concernent la situation sur terre s'accomplissent dans le monde. Et que ce soit, que cela concerne les circonstances politiques ou bien les circonstances religieuses, nous vivons à la fin des temps et tout est en train de prendre son cours et tout est en train réellement de montrer que le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur, est vraiment devant la porte. Et nous devons faire comme dans Philippiens chapitre 3, verset 12 à 15, fixer notre regard au but, car l'appel retentit, voici l'époux, viens, levez-vous pour aller à sa rencontre. Et c'est ainsi que le 10e verset de Matthieu 25 nous dit que celles qui furent prêtes entrèrent au repas des noces et les portes ont été fermées. Notre devoir, c'est justement de faire retentir le dernier message et de l'apporter à tous les peuples et de faire retentir le dernier appel. Nous n'avons pas de temps pour seulement entendre de la musique et chanter des cantiques et faire une atmosphère, mais il s'agit de la sainte et précieuse parole que nous devons écouter. Et je crois que le Seigneur, encore aujourd'hui, parlera avec nous. Ce que je voulais dire, et tout ce qui se passe a lieu pour l'honneur de Dieu. Mais à Singapour, réellement, j'ai vu une petite réunion où réellement, ils ont pris la guitare et ils ont fait de l'atmosphère. L'atmosphère. Et celui qui jouait la guitare, il parlait comme ça. Il répétait des choses à haute voix pour que tous répètent ce qu'il dit. Et ils appelaient cela parler en langue. Vous savez ce qui a suivi après ce théâtre, après ce jeu. Et après, je n'en ai plus vu. Tous sont partis. Il faut que ce soit ainsi, que la parole de Dieu, selon la vérité, soit prêchée et que tout ce qui vient des hommes soit découvert et que nous ne permettons plus rien. Nous avons cette disposition et cette position comme Paul l'avait dans Galates 1 au verset 10. Que si nous voulons encore plaire aux hommes, nous ne sommes même pas des serviteurs de Christ. Alors nous pouvons rester à la maison. Dans Hébreux le chapitre 10, nous lisons encore à partir du verset 6. Je veux dire à partir du verset 36. Hébreux 10, verset 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il vous est promis, ce qui vous est promis. Ici, nous avons tout un résumé de ce qui doit s'accomplir avec nous, de ce qui va s'accomplir avec nous. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. D'abord, il faut que nous puissions dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça n'a aucun sens sans se soumettre à la volonté de Dieu, comme c'est écrit dans Colossiens 4, verset 12. D'attendre l'accomplissement d'une promesse. Nous devons, comme c'est écrit dans Colossiens 4, verset 12, être apportés en accord avec la parole de Dieu et avec Dieu pour pouvoir s'attendre à ce que Dieu a promis. Et nous devons croire et réellement ajouter à la foi l'obéissance et que ce ne soit pas que nous soyons en train de marcher à côté des traces, mais réellement dans les traces de notre Seigneur. C'est seulement comme ça que nous pouvons prétendre le suivre. Ensuite, au verset 37, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Il ne tardera pas. Il reviendra. Il reviendra bientôt. C'est pour cette raison qu'il nous révèle maintenant sa volonté. Il nous révèle sa parole. Il nous révèle les promesses qu'il nous a données pour ce temps par sa grâce, pour que justement nous puissions être trouvés dans l'accomplissement de ce qu'il a promis et avoir part à cela par sa grâce. Et nous venons maintenant déjà à ce point. Nous ne jugeons personne. Nous ne portons non plus aucun jugement sur une communauté ou bien une direction de foi, non plus sur les 347 églises religieuses maintenant qui sont unies dans le Conseil mondial des églises. Elles ont tous leur droit d'exister. Tout ce qui est sur terre a le droit d'être là. Mais au milieu de toutes ces communautés d'églises et religieuses, réellement la parole de Dieu parmi ces églises-là est interprétée de toutes sortes de directions. Et chaque église prétend pour elle croire de la manière juste, de la manière correcte, enseigner de la manière correcte et être correct et juste. Et c'est peut-être raison que nous sommes obligés de prêcher la parole de Dieu et de consulter les Écritures en toutes choses. Car le modèle n'est pas l'Église catholique, le modèle n'est pas l'Église évangélique, non plus l'Église baptiste ou bien méthodiste ou pentecôtiste. Le modèle est l'Église primitive. Ça, c'est le modèle biblique auquel nous devons revenir et que nous devons consulter. C'est peut-être raison qu'en tout ce, nous devons revenir à l'original, au commencement. Et si nous voulons ici éclaircir cela dans le Conseil mondial des églises, tout est rassemblé, est uni. Oui, sous qui cela est uni? Jésus-Christ est le seul chef de son église. Il est la tête. Il a versé son sang et donné sa vie pour nous en tant que fils de Dieu, pour tous les fils et les filles de Dieu. Il nous a rachetés. Nous lui appartenons. Et aussi, même si nous appartenions à ces différentes églises, c'est ainsi que de la part de Dieu, nous sommes devenus une partie du corps de Jésus-Christ, une partie de l'Église des premiers-nés qui réellement ont reçu la parole en tant que semence incorruptible et qui sont devenus une nouvelle création et ont été conduits dans une nouvelle vie par la régénération et la nouvelle naissance par le Saint-Esprit. Et c'est ainsi que nous avons le contact, la relation directe avec Dieu lui-même. Pas le contact à une communauté religieuse, mais avec Dieu lui-même. Et nous ne suivons pas un homme, mais nous suivons le Seigneur qui nous a appelés et qui a dit, suivez-moi. Dans les prochains versets, au verset 38, d'Hébreux 10, il est dit, et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Je voudrais à cela lire la parole d'Habacouc, le chapitre 2. Ici, le prophète a exprimé quelques paroles qui nous rappelle du texte d'Hébreu, Habacouc, le chapitre 2, à partir du verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Habacouc 2, verset 3. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Donc, quand Dieu donne des promesses et que notre foi est ancrée dans ces promesses, sans considérer combien de temps cela dure, le temps doit arriver. Le temps va arriver dans lequel les promesses que Dieu a faites, a données, s'accomplissent. Ici, il est écrit, jusqu'au temps fixé. Et le temps fixé est toujours celui que Dieu a déterminé, c'est-à-dire quand le temps est accompli. Galates 4, verset 4. Tite 1, verset 2. Et 3, quand le temps fut accompli. Et nous lisons encore une fois, Il marche vers son terme, verset 3 de Habacuc 2. Nous avons déjà mentionné ici le mot terme, donc but. Il marche vers son but. Et aussi Paul a parlé du but, c'est-à-dire que des hommes qui sont devenus croyants ont un but. Ils savent en qui ils croient et ils savent quel chemin ils suivent et ils savent où est-ce qu'ils arriveront. Et ensuite, au verset 4 de Habacuc 2, il est écrit, « Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi, aura à cause de son attachement à la fidélité, aura la vie. Mais le juste, par son attachement à la fidélité, aura la vie. » Donc, nous disons dans Hébreux, par la foi, Hébreux 10, le dernier verset, verset 39, donc nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et ensuite, l'homme de Dieu continue et écrit au chapitre 11, Hébreux chapitre 11, verset 1, « Or, la foi est une ferme assurance, une assurance, une confiance, est une ferme confiance, une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration ferme de celles qu'on ne voit pas, une conviction ferme de celles qu'on ne voit pas. Mais si Dieu les a promis, alors elles doivent s'accomplir, elles doivent devenir vraies. La parole a aussi sa place ici, d'Hébreux, le chapitre 11, à partir du verset 24. Les hommes de Dieu, dans l'Ancien Testament, qui avaient une relation directe avec Dieu, ils nous ont donné un exemple de ce qu'on fait quand Dieu donne une promesse. Et ensuite, l'accomplit. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. On n'a pas besoin de dire beaucoup de choses là-dessus. Un homme qui a le choix, ou alors, avec le peuple de Dieu, de souffrir l'opprobre, ou alors, d'être bien vu, d'être vu, et d'être dans la maison du roi et du palais. Ici, il prend la décision, au prochain verset, au verset 25, il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu, plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Et ensuite, suit la raison. Au verset 26, il regardait l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération céleste. Comment les choses vont pour toi au travail? Comme dans les jours quotidiens. Tous nous devons porter l'opprobre. Il n'y a aucun enfant de Dieu qui pourrait rester sans avoir de problème. Il n'y a aucun enfant de Dieu qui peut rester anonyme où les collègues de travail vont jamais savoir qui et qui nous sommes et ce que nous sommes. Non, c'est pas possible. Nous n'avons pas besoin de dire beaucoup de choses. Ils vont poser la question. Ils vont poser la question. Particulièrement, les jeunes vont sûrement, on leur posera la question. Est-ce que vous avez déjà vu le nouveau film à la télévision? Et pourquoi est-ce que vous êtes habillé décemment comme ça? On va vous poser la question. Pourquoi vous êtes habillé comme ça, etc. Et alors, déjà, l'opprobre commence. Mais heureux sommes-nous si réellement nous fixons les regards sur celui qui nous a appelés. Et et considérons la rémunération céleste et la conservons devant nos yeux. Ne pas regarder à l'opprobre et à la honte et écouter à toutes ces choses, mais au Seigneur qui nous a appelés d'une vocation céleste, nous a déterminés à voir sa gloire. Et au prochain verset, il est écrit, au verset 27, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Nous pourrions continuer à lire. Et ensuite, il a apporté la Pâque et il a effectué l'aspersion du sang pour que l'ange, donc l'exterminateur, ne touche pas au premier-né des Israélites. Bien-aimés frères et sœurs, l'ange d'extructeur, bien-aimés frères et sœurs et bien-aimés amis, ici il y a une grande leçon pour nous tous. D'abord, il s'agit que nous puissions avoir entendu l'appel du Seigneur. Moïse savait les choses pour lesquelles il avait été appelé. Il connaissait son appel, il connaissait dans son cœur, même avant le temps, il savait que il avait un mandat qui allait être là pour lui, qu'il devait exécuter. Il le savait à l'avance. Et soyons sincères, nous aussi nous savons dans notre cœur que nous avons été déterminés à vivre près de Dieu pour toujours, éternellement, dans la gloire. Et que les choses que le Seigneur nous a révélées par sa parole et nous a laissé dire et nous laisse dire par ses messagers, par ses envoyés qui portent sa parole. Nous avons la grâce de le croire. Et c'est le point. Tel que tous les prophètes étaient méprisés, pas parce qu'ils étaient des criminels, mais à cause de la parole de Dieu qu'ils ont portée en tant que semence précieuse. C'est peut-être raison que Jérusalem n'a pas tué les sacrificateurs, n'a pas mis à mort les scribes et les pharisiens, mais c'est les prophètes qui ont été mis à mort, les porteurs de la parole de Dieu, desquels notre Seigneur lui-même disait, comme dans le psaume 82, vous êtes des dieux. C'est réellement à 82, verset 6, psaume 82, c'est vraiment la substance incorruptible de la parole de Dieu qui était dans le cœur de ces hommes et qu'ils portaient la parole. C'est exactement la même chose pour nous aujourd'hui. La semence, la substance incorruptible de la parole de Dieu est tombée dans notre cœur et nous avons la grâce de la porter et de croire comme, et nous croyons comme le dit les saintes écritures. Et c'est ainsi que nous aussi, dans n'importe quelle situation difficile dans laquelle nous pourrions être, nous devons regarder à l'invisible comme si nous le voyions. Nous savons qui nous a donné la promesse. Paul écrit dans Romains au chapitre 4 concernant Abraham qui, n'est-ce pas, est notre père, est devenu notre père à tous et que nous croyons que nous sommes la semence d'Abraham de la foi. Par exemple, les versets particuliers dans Romains chapitre 4 à partir du verset 17. Romains chapitre 4 à partir du verset 17. La fin du verset 16 d'abord. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, devant Dieu en qui il a cru. Devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Qu'est-ce que c'était? Une promesse que Dieu donne a une telle certitude en elle. En elle. On n'a pas besoin ici d'ajouter quoi que ce soit. La parole de Dieu est tellement certaine qu'un homme qui reçoit la parole de Dieu en elle, en lui, il reçoit aussi par l'Esprit de Dieu la certitude d'être un enfant de Dieu et ensuite l'accès aux promesses, l'accès aux bénédictions, à tout ce que Dieu en Christ nous a préparé. Et ici, nous avons plusieurs versets qui pourraient être lus, nous les lisons souvent. Par exemple, encore une fois, dans Romains chapitre 4, au verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, celui selon ce qui lui avait été promis. Selon ce qui lui avait été promis, telle sera ta postérité. C'est ce qui lui avait été promis. Ça, c'est Dieu qui l'a dit. Et c'est ainsi que cela s'est accompli jusqu'à dans nos jours encore. La parole de Dieu, les promesses de Dieu demeurent. Elles ne s'ébranlent jamais. C'est par son sang que Jésus a scellé ce qu'il promet dans sa parole. Avec le mot persévérer, ou bien sur la persévérance ou la patience, nous lisons dans Romains le chapitre 5, Romains le chapitre 5, à partir du verset 4. Dans Hébreux, nous avons lu, n'est-ce pas, que nous devons persévérer et avoir de la patience. Et ici dans Romains chapitre 5, à partir du verset 4. La persévérance, produit la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance, or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons besoin d'être vivifié par le Saint-Esprit. Il n'y a aucun chemin qui pourrait s'en détourner. Et je voudrais lire les versets bibliques qui concernent notre Seigneur et aussi bien sûr qui nous concernent. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 3, nous avons l'exposé de ce qui s'est passé avec notre Seigneur et Rédempteur. Mais déjà avant cela, Jean-Baptiste a annoncé ce qui va se passer avec nous, ce qui doit se passer avec nous. Ça, c'est dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 3, à partir du verset 11. Moi, je vous baptise seulement d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et ensuite, suis le baptême de notre Seigneur et Rédempteur. Et ensuite, suis le baptême du Saint-Esprit. Et ainsi nous avons la comparaison comme cela doit aussi se passer avec nous de la meilleure manière dans l'ordre. D'abord devenir croyant, accomplir toute justice de Dieu, suivre le chemin de l'obéissance et ensuite recevoir de Dieu la confirmation que nous lui appartenons. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons revenir à ce point où réellement nous revêtons l'armure de la puissance d'en haut. Soyons sincères. Si déjà nous faisons cette remarque que nous ne tirons aucune comparaison, nous ne pouvons pas nous comparer à une communauté quelconque chrétienne, mais que notre modèle demeure et reste l'Église primitive qui a été revêtue de la puissance d'en haut, dans laquelle les dons de l'Esprit et les ministères existaient. Soyez sincères. Si le don de la prophétie n'est pas là, alors nous n'écoutons pas de prophétie. Si le don de parler en langue n'est pas là, nous n'écoutons pas de parler en langue. Si le don de l'interprétation n'est pas là, nous n'écoutons pas d'interprétation.
Et on pourrait comme ça continuer. Et citer les 9 dons de l'esprit. Si, alors il est écrit du don des guérisons. Pas seulement en général, eux, ils imposeront les mains aux malades. Et ceux-ci seront guéris. Mais du don des guérisons. Tel que la personne qui est baptisée d'esprit et du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu lui-même peut exercer le don de la prophétie, peut utiliser le don. C'est ainsi que le Saint-Esprit doit agir. Et aussi certain que le don du Saint-Esprit a été distribué, le don des guérisons a été distribué. C'est ainsi que dans la foi, il prononce la guérison. C'est ainsi que c'est l'Esprit de Dieu qui doit agir tout en tous. Ça ne suffit pas, comme déjà je viens de le dire, de tirer une comparaison et de dire que nous avons les Saintes Écritures comme modèle. Nous devons prendre ce modèle au sérieux. Nous devons dire réellement, bien-aimé Seigneur, tel que nous sommes, nous ne pouvons pas continuer. Nous avons besoin d'être revêtus de la puissance d'en haut pour que ce soit réellement l'Esprit de Dieu qui puisse agir et que les différents membres puissent être utilisés par le Saint-Esprit comme cela plaît à Dieu. Et c'est ainsi que l'Église sera restituée et ramenée dans l'état primitif. Vous savez qu'avec frère Branham, c'est comme ça aussi dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 4 jusqu'au verset, donc tout le chapitre. Regardez, quand frère Branham recevait une vision de la concernant la personne qui se tenait devant lui, et qu'il voyait dans la vision cette personne-là déjà guérie, alors ça n'avait aucune importance qu'elle aurait eu le cancer, ou bien qu'elle soit muette ou bien sourde, ça n'avait aucune importance. Aussi certain qu'il voyait dans la vision la personne déjà guérie qui se tenait devant lui malade, alors ça accomplissait ce qui est écrit dans l'évangile de Jean, le chapitre 5, à partir du verset 19 et du verset 20. Le Fils ne fait rien, si ce n'est qu'il voit ce que le Père fait. Et c'est ainsi que le Fils fait la même chose. Donc, mais nous qui ne sommes pas comme ça, remplis de ce, et n'avons pas ce don, et n'avons pas ce ministère, encore moins, nous ne voulons pas le limiter. Mais nous voulons un déversement, une infusion authentique du Saint-Esprit. Nous voulons des dons authentiques de l'Esprit, qui sont exercés par l'Esprit. Et ainsi s'accomplit que celui qui a faim et soif, qu'il soit rassasié. Ce n'était pas, et que ça n'a pas été la promesse principale que Dieu a donnée déjà dans l'Ancien Testament à son peuple. Il a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alors avec cela, il voulait parler de tous les peuples. Et dans Actes des Apôtres, au chapitre 2, c'est ainsi qu'ils étaient réunis de 17 différentes nations ensemble. Et ensuite, le déversement du Saint-Esprit a eu lieu. Et voilà, l'Esprit agissait et donnait de s'exprimer. Et ils ont annoncé les grands faits de Dieu, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est ainsi qu'il y a eu cela qui a été rapporté aux assemblées locales dans toutes les différentes villes. Le Seigneur, réellement, que vous le croyez ou pas, mais le 2 avril 1962, avant l'aurore, le Seigneur m'a dit, ne fonde aucune assemblée locale. Et ça, je ne le fais pas non plus. Ici, ça suffit au Seigneur d'avoir une église constituée de toutes les langues, les peuples, les nations, à les appeler à se rassembler, pour nous révéler sa parole et sa volonté jusqu'à ce que nous devenions un seul cœur et une seule âme, et ensuite être attentif à comment est-ce que c'était au commencement que Dieu déverse son esprit. Je me répète, c'était la promesse principale dans le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et celui qui va dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 16, et lit, constatera que Pierre n'a pas donné une propre réponse, mais il a dit, ici s'accomplit ce que Dieu par le prophète Joël a dit. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc, pas seulement l'enseignement, pas seulement être introduit dans la parole de Dieu, mais être introduit aussi dans la volonté de Dieu. Après l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est maintenant le rétablissement parfait de tout ce qui existait dans l'église primitive au commencement. Et dans ce contexte des choses, la parole de Actes des Apôtres est aussi importante au chapitre 3. Et ici, il a aussi fait mention donc de notre Seigneur qui devait être prophète, car Moïse avait dit, un prophète comme moi vous sera envoyé, vous sera suscité de Dieu, de parmi vos frères. Donc, après avoir, il devait être fils de Dieu, et fils de l'homme, fils de Dieu, fils de David, fils d'Abraham, roi, fils de David, fils d'Abraham, eunuque, roi et sacrificateur. Il devait être médiateur, avocat, il devait devenir tout en tous. Ça, c'est comme ça déjà annoncé et promis dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, cela s'est accompli. Après avoir fait la volonté de Dieu, et la volonté de Dieu, c'est que nous devenions un seul cœur, une seule âme, et que nous revenions à l'église primitive, avant d'obtenir ce qu'il a promis, dans Actes des Apôtres, chapitre 3, à partir du verset 18. Mais Dieu, Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 18, mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait souffrir. Oui, de la sorte. Tout de suite la question, comment est-ce que ce sera maintenant? Dieu va aussi accomplir tout ce qu'il a dit par la bouche de ses serviteurs, les prophètes. Il va laisser aussi accomplir toutes ces choses. Autrefois, il a fait mention de notre Seigneur et Rédempteur, c'est-à-dire que son oint devait souffrir. Verset 19. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Nous avons lu dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Jean, que le Seigneur est allé pour préparer une place et qu'il reviendra. Et ici, il est dit que nos péchés seront effacés, que nous devons nous repentir et nous convertir, et qu'ensuite, il enverra le oint. Au verset 20, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. D'abord le temps de rafraîchissement. D'abord le temps du rétablissement de toutes choses. Et c'est seulement après qu'il pourra revenir pour prendre l'Église épouse, préparée, achevée dans sa gloire. Au verset 21, que le ciel doit revenir, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Bien-aimés frères et sœurs, je lis dans le Nouveau Testament, je lis d'Actes des Apôtres, la deuxième prédication de Pierre, c'est ainsi que nous pourrions le dire. Et ici, il donne une vue d'ensemble de ce qui s'était passé autrefois, et de ce qui s'était passé autrefois, et de ce qui doit se passer et va se passer avant que notre Seigneur puisse revenir pour prendre les siens dans la gloire. Tout ce qu'il a prononcé par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Le verset 21. Le conseil de Dieu n'a pas été révélé aux sacrificateurs, n'a pas été révélé aux scribes, n'a pas été révélé aux pharisiens, n'a pas été révélé aux sadduciens. La parole vient toujours aux prophètes. Et celui qui, dans le Nouveau Testament, continue à lire, il sait exactement ce que Paul a écrit aux Éphésiens. Lisons, continuons à lire au verset 22, Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 22. Moïse a dit, ici il y a la référence, Deutéronome, chapitre 18, verset 15 au verset 19. Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète. Comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Dans tout ce qu'il vous dira. Nous venons tout de suite à Apocalypse 1. Lisons, continuons à lire au verset 29. Pardon, au verset. Où sommes-nous? Oui. Nous avons lu le verset 22, maintenant le verset 23. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. La chose est très sérieuse. Et si nous allons dans Apocalypse, le premier chapitre, ici nous voyons notre Seigneur marchant au milieu des sept chandeliers d'or en tant que fils de l'homme. Je ne sais pas si tous sont intéressés de ces choses et ont compris la différence. Ici, il est le fils de Dieu et il donne sa vie pour tous les fils et les filles. Et ensuite, il est fils de David et pour être roi et s'asseoir sur le trône de sa gloire. Et ensuite, il est fils de l'homme. En tant que fils de l'homme, il est prophète. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, un prophète comme moi vous sera suscité de Dieu de parmi vos frères. En tant que l'héritier du monde, il est fils d'Abraham. Et nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, les saintes écritures ont été écrites dans un ordre divin. On doit respecter et avoir accès, pour pouvoir avoir accès et trouver l'accès à cet ordre divin qui est seulement possible par la foi pour que cela soit révélé par le Saint-Esprit, comme c'est écrit dans Romains 5, avoir accès. Et si nous regardons tous les séminaires et toutes ces écoles bibliques là et ces facultés de théologie, si nous pouvions les fermer, alors cela ne nuirait pas du tout au monde. Au contraire, le monde serait aidé par la fermeture de toutes ces institutions, et il n'y aurait plus donc d'interprétation et des écritures par lesquelles les gens seraient égarés, mais nous allons seulement donc écouter ce que Dieu réellement a dit dans sa parole. Et si Paul, et c'est important ici de comprendre la comparaison entre Actes des Apôtres 3, verset 23 et Apocalypse 1, verset 12, fils de l'homme, ministère de prophète, et ici dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 1, 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 1, ici, c'est aussi très important, ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu, duquel ce qu'on demande, du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Qu'est-ce que vous attendez d'un serviteur de Dieu? Est-ce que vous attendez qu'il soit ballotté de droite et à gauche? Jésus lui-même a posé la question. Qui est-ce que vous voulez voir? Un roseau qui est ballotté par le vent de droite et à gauche? Non. Ça, c'est Matthieu 11. Mais je vous dis, plus qu'un prophète, il était le prophète qui a fait l'histoire du salut, qui a ensemble lié l'Ancien et le Nouveau Testament. Ensuite, ça c'est Jean-Baptiste. Et ensuite, au niveau du Nouveau Testament, nous avons nos frères. Allez dans Actes des Apôtres, chapitre 1. Pierre saisit la parole et il a mis de nouveau tout en ordre. Judas était parti. Et alors il a dit, il est écrit dans le psaume, sa personne sera rendue déserte et son ministère doit être pris par quelqu'un d'autre. Bien, frère et soeur, et Pierre aussi n'a pas dit, ici s'accomplit la promesse du Père, mais ici s'accomplit ce que Joël avait dit, et il a ramené tout dans les Écritures. Mais bien, frère et soeur, c'est ainsi que l'ordre dans l'Église prophétique a été apporté au peuple de Dieu, avec les Écritures, c'était des hommes qui se tenaient sous la conduite directe du Saint-Esprit pour pouvoir ordonner toutes choses selon ce qui avait été annoncé à l'avance, ordonné selon les Écritures. Ils sont venus, ils ont dit, voilà de quelle sorte les Écritures sont accomplies. Ils n'ont jamais balbutié ou bien bégayé en parlant de la parole de Dieu. Ce qui était écrit, par exemple, comment est-ce que Pierre aurait pu savoir ce qui était écrit dans le psaume ou bien dans Joël et tout cela? De lui-même, il n'aurait pas su. C'était un simple pêcheur de poisson. Il n'aurait pas su de lui-même de quelle parole ici s'ajuste à ce qui s'est passé avec Judas. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, frères et sœurs, c'est seulement le Saint-Esprit qui peut le faire. Aucun homme peut le faire. Et si nous prenons encore Jean, on lui a posé la question à Jean-Baptiste, qui es-tu? Nous devons poser la question à ceux qui nous ont envoyés. Nous devons leur donner une réponse. Et ensuite, la réponse a suivi. Je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Les scribes et pharisiens auraient pu dire, mais personne ne rend témoignage de lui-même. Mais si ici, c'était les Écritures qui se sont accomplies, et si ce qui était écrit dans Ésaïe 40 et ce qui avait été promis s'est accompli, alors nous n'avons pas ici affaire au témoignage d'un homme qui apparaît. Il était seulement la voix de celui qui criait dans les déserts et qui appelait. Appelait, crier, c'est-à-dire en allemand, appeler. Appelé. Le Seigneur a toujours utilisé la bouche de l'homme pour parler. Il était seulement la voix de celui qui appelait. Et si nous parlons de frère Branham ici, si frère Branham, à l'époque, bien sûr qu'il savait, il savait exactement quel verset s'ajustait à son ministère. Nous ne pouvons pas parler avec quelqu'un de ces choses. Car si Dieu ne lui ouvre pas l'intelligence pour les Écritures, il ne pourra pas le comprendre. C'est ainsi que Dieu a voulu les choses. Tout est fondé sur la révélation. Sans révélation, personne ne peut comprendre et peut reconnaître. C'est peut-être Dieu a voulu les choses ainsi pour que ce ne soit pas un frère ou bien quelqu'un qui enseigne l'autre, mais que tous individuellement soient enseignés de Dieu et conduits dans la parole de Dieu par Dieu. C'est ainsi qu'il est écrit dans Malachie chapitre 3 au verset 1. Voici, je vous envoie mon messager. Avant moi, devant moi, mais de la même manière, il est écrit que Dieu enverra un prophète, ça c'est Malachie 4, verset 5, avant le jour terrible et redoutable de l'Éternel. Et celui qui, dans Malachie 3, lit, le jour viendra, Malachie 4, verset 5, ce jour viendra et brûlera comme un four. Et alors tous les orgueilleux et tous les blasphémateurs seront comme du foudre, la cendre ébrouilleront, et le jour du Seigneur les brûlera, qui viendra. Nous devons alors être attentifs. Que sommes-nous? Sommes-nous du blé, ou bien que sommes-nous? Si nous sommes du blé, alors nous allons, avant que le jour de l'Éternel vienne, avant que le soleil s'obscurcisse et que la lune perd son éclat et se transforme en sang, nous allons, si nous sommes du blé, nous allons croire la parole de la promesse pour cette époque, l'écouter, la croire et l'expérimenter dans son accomplissement, personnellement. Bien, frères et sœurs, si nous sommes du blé, nous allons accomplir la volonté de Dieu. Prenez cela comme un grand cadeau de Dieu, de ce que le Seigneur, d'une manière si claire et vraie, parle avec nous, par sa parole, et qu'il nous la révèle par le Saint-Esprit, car tout ce qui vient de Dieu vient réellement toujours par la révélation. Si ensuite nous allons dans l'Apocalypse, car elle est écrite, n'est-ce pas, dans Malachie, c'est sur le chapitre 4, le premier verset, c'est important ici. Nous devons comprendre qu'il y a une partie prophétique, il y a la partie de l'enseignement pour l'Église, aussi pour les Églises locales, comment est-ce que tout doit être, et il y a aussi la partie prophétique. C'est-à-dire, tout ce qui va arriver dans Apocalypse, chapitre 1, verset 1, et ça c'est très important, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Dieu peut le faire dans des heures décisives. Des choses surnaturelles sur cette terre se passent. dans des heures décisives de l'histoire du salut. Le ciel se penche, descend sur cette terre et Dieu révèle tout son conseil, tout son plan du salut et nous donne d'avoir part à cela, à cette révélation. Et ensuite, au verset 2, Apocalypse chapitre 1, celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Je vous pose la question. Si avec une telle parole, aujourd'hui, nous allions d'école biblique à école biblique, de séminaire à séminaire, à institution théologique, et si nous disions, s'il vous plaît, que vous dit un tel verset? Ce qui se passerait, bon, ils vont sursauter, s'attraper la tête et demander, mais ça, et dit, mais ça, nous ne savons pas ce que cela veut dire, ce verset. Bien, frères, si nous avons la grâce de reconnaître et de confesser que Dieu nous a accordé sa grâce et que nous avons trouvé réellement l'accès. Et nous avons constaté que ce que le Seigneur, par l'envoi de son ange, a révélé à Jean, cette révélation-là, cette inspiration, cette compréhension était déterminée pour tous les serviteurs de Dieu. Car cela est écrit ici au pluriel. Pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Dieu utilise un serviteur pour que tous les serviteurs reçoivent la même révélation et que la volonté de Dieu leur soit révélée. C'est ainsi que cela s'est passé aussi dans le passé. Éphésiens 3, verset 5, et c'est comme ça que cela s'est passé aussi avec le ministère de Jean-Baptiste. Et comme nous avons toujours eu à le dire, c'est comme ça que cela demeure aussi du Colossiens 1, verset 26, la révélation aussi pour tous les saints. Nous n'allons pas élever un homme, mais nous n'allons pas non plus passer sans prendre part à ce que Dieu a promis et a fait dans notre temps et fait encore. Cela pourrait arriver que des personnes réellement, aussi à l'intérieur du message, regardent en arrière et pointent du doigt ce qui s'est passé il y a 40 ans d'ici. Maintenant, le 24 décembre, ça va faire 40 ans que frère Branham a été repris à la maison. Et beaucoup, à l'intérieur de ce message, regardent en arrière, à ce qui s'est passé dans le ministère de frère Branham, et n'ont pas compris ce que Dieu a fait depuis que frère Branham a été repris. Depuis que frère Branham a été repris. L'œuvre de Dieu n'a pas arrêté. Et maintenant, nous arrivons à ce point. Nous n'avons pas le droit de nous arrêter. Est-ce que les disciples se sont arrêtés au ministère de Jean-Baptiste? Non! Tous ceux qui réellement ont reçu le ministère de Jean-Baptiste ont eu la possibilité de suivre le Seigneur et son ministère. Et tous ceux qui réellement ont suivi le ministère du Seigneur et ont suivi le Seigneur ont pu devenir une partie de l'Église du Nouveau Testament alors que le temps fut arrivé. C'est important, c'est comme une réaction dans une chaîne. On doit vraiment passer par les différentes étapes, je le dis, par la grâce de Dieu, les voir et les expérimenter personnellement. Soyez sincères, à quoi est-ce que ça nous servirait? Si tous pourraient dire, ou bien diraient, oui, le Seigneur a envoyé un prophète puissant et il a fait des choses impensables, incroyables. Les jours des apôtres étaient vraiment de nouveau parmi nous. Si nous n'en tirons pas la leçon pour nous personnellement et comprenons que le message n'est pas le messager, s'il vous plaît, mais le message devait être précurseur du retour du Christ. Et je vous dis, il s'agit maintenant de chaque parole. On doit exactement entendre, écouter, prêter l'oreille et voir et lire exactement ce qui est écrit dans la Bible. Et ensuite, c'est ainsi que nous recevons l'accès à l'accomplissement de ces choses. Donc, résumons ces choses. Persévérez, ayez de la patience. Bien-aimés frères, car c'est seulement après avoir accompli la volonté de Dieu que vous obtiendrez ce qu'il a promis. C'est-à-dire, vous atteindrez le but. Ne vous retirez pas. Demeurez ferme. Demeurez ferme. Ne regardez pas aux circonstances. Ne regardez pas à la moquerie et à l'opprobre. Moïse a dû aussi porter le poids du Christ. Et il a considéré comme une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte. Représentez-vous cela devant les yeux. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons revenir à ce point où le Seigneur signifie tout pour nous. Où sa parole nous signifie tout. Où réellement nous sommes liés et unis avec lui. Nous sommes devenus un avec lui, quoi qu'arrive. Que réellement, nous ne puissions pas regarder aux circonstances et regarder aux difficultés. Mais, comme Paul aussi l'a écrit, je vais lire encore cette parole de Philippiens et fixer nos regards sur le but. Car nous avons un but. Nous avons un but. Si vous ne dites pas Amen, alors je ne peux pas arrêter. Je ne peux pas arrêter. Oui, oui. Philippiens, chapitre 3, au verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint. La perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Bien-aimés frères, je ne pense pas l'avoir saisi. Je ne pense pas de moi l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Encore la première partie du prochain verset, verset 15. Nous tous donc qui avons le but devant les yeux, ou bien alors qui sont des hommes faits, ayons cette même pensée. Bien, frères et sœurs, nous ne vivons pas d'imagination. Nous savons que tout, c'est seulement la grâce de Dieu. La grâce de Dieu de ce que nous avons été sauvés. La grâce de Dieu de ce que les bénédictions sont venues sur nous. La grâce de Dieu de ce que nous pouvons croire, comme le dit les Saintes Écritures, la grâce de Dieu de ce que nous pouvons recevoir de toutes les promesses qui sont dans la parole de Dieu, les prendre personnellement pour nous, de ce que véritablement nous pouvons croire, comme l'a dit les Saintes Écritures. Et nous faisons comme Moïse a fait, nous regardons à l'invisible, comme si nous le voyons. Et le Seigneur a donné la promesse d'être parmi nous, de parler avec nous et de nous bénir. Et que cela puisse s'accomplir. Ce qui s'est passé dans les assemblées, dans les réunions dans lesquelles notre Seigneur était sur terre, lui-même présent. Les pécheurs ont expérimenté le pardon. Les malades ont été guéris. La parole a été prêchée aux pauvres. De telles réunions, que Dieu puisse nous les accorder, où la parole est prêchée, où tout cela se passe. Il les accordera. Le ciel et la terre seront encore ébranlés. Et Dieu va faire de grandes choses, telles qu'il a promis. Nous ne voulons pas nous retirer, comme c'est écrit dans Hébreux 10, verset 39, mais croire et être convaincu que Dieu accomplira tout ce qu'il a promis en ceux et avec ceux qui, de tout leur cœur, croient et lui font confiance. Dieu a un peuple sur cette terre et il a une église sur cette terre, des hommes qui, dans la foi, reçoivent sa parole et vivent dans l'attente d'expérimenter l'accomplissement de tout ce qu'il a promis et aussi de l'expérimenter personnellement. Je peux seulement dire, loué et exalté soit le Seigneur, notre Dieu, de ce que il nous a fait grâce, de ce que nous avons la grâce de reconnaître maintenant ses chemins. Il a fait connaître ses chemins, ses voies à Moïse et aux enfants d'Israël, son œuvre. Il nous a aussi fait connaître ses voies et son œuvre dans ce temps de la fin. Et comme Abraham, nous voulons aussi le faire, c'est-à-dire regarder à celui qui a donné la promesse et lui le considérer comme fidèle, comme plus que capable d'accomplir ce qu'il a promis, dans la conviction qu'il accomplira toutes choses, tout ce qu'il a promis. Persévérons, demeurons fermes, ne regardons pas aux circonstances, mais au but. Et le but sera bientôt atteint. Loué et exalté soit le Seigneur, notre Dieu. Et maintenant, nous allons lui dire merci de tout notre cœur ensemble. Nous nous levons pour le faire. Alléluia. Père Céleste, nous te remercions de tout notre cœur pour ta grâce et ta fidélité. Nous te remercions pour ta sainte parole. Nous te remercions pour tous les contextes et la signification que nous avons la grâce de voir comme ton conseil du salut s'accomplit, de ce que maintenant nous recevons la révélation par ton esprit, que ta volonté soit faite dans notre vie et dans l'Église par ta grâce. Bénis avec nous tout ton peuple dans l'adoration, parmi tous les peuples, les langues et les nations. Appelle à sortir, que tu puisses te manifester, te révéler, baptiser du Saint-Esprit et de feu. Accorde une infusion nouvelle, puissante de ton esprit. Ô bien-aimé Seigneur, nous louons la puissance de ton sang, de ta parole et de ton esprit. Et nous te disons merci pour la victoire de Golgotha, à Golgotha. Bien-aimé Seigneur, à toi le Dieu Tout-Puissant, soit louange, honneur, gloire et adoration. Alléluia. Alléluia. Louez le Seigneur, exaltez-le, remerciez-le. Alléluia.
Alléluia. Reich und Ehre, Ruhm und Anbetung. Halleluja. 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 Reich Gott. Oh, geliebter Herr.
Oh, bien-aimé Seigneur, tu as parlé avec nous. Nous avons entendu ta parole. Nous t'avons compris. Oh Dieu. Oh Dieu. Alléluia. Toi, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Alléluia. 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 Gloire et honneur. Gloire et honneur. Alléluia. Alléluia.
Alléluia.
Chantons crois seulement, et que tous puissent croire pour le salut, pour la guérison, pour chaque bénédiction. Acceptez déjà cela accompli. Car en Jésus-Christ, de la part de Dieu, nous avons été déjà bénis de toute bénédiction qui existait au ciel. Bénis. Alléluia. Croyez-le maintenant. Recevez-le pour vous. Croyez seulement, croyez seulement.
Jesus is me.
Ceci est le jour. Ceci est le jour que le Seigneur a fait. Nous voulons être heureux et reconnaissants. Donner à la parole d'agir et à l'esprit d'agir. À la parole et à l'esprit d'agir. Donner tout l'accès à l'esprit et à la parole. Car ceci est le jour que le Seigneur a fait. Donner toute la place à l'esprit et à la parole. Oh, je voudrais voir celui qui est mort pour moi. Notre Seigneur a dit, je vais vous préparer une place. Je reviens bientôt pour vous prendre auprès de moi. Ce qu'aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu, ce qui n'est pas monté dans aucun cœur d'homme. Ce sont ces choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il l'aime. Et ceux qui l'aiment, aiment sa parole, croient sa parole, et aiment aussi les uns les autres. C'est en cela que le monde reconnaîtra que vous demeurez dans la parole de Dieu, que vous êtes ses disciples. Si nous avons le vrai amour les uns pour les autres, les uns parmi les autres. Mais s'il vous plaît, pas attendre des autres qu'il aime, pas attendre de l'autre qu'il aime, mais que chacun fait sa part, apporte sa part, sans attendre de l'autre. Toi, tu dois aimer. C'est ainsi que tout ira bien avec chacun de nous. Nous prions encore ensemble et je demande que notre frère Didier vienne et encore prie avec nous. Viens, frère Didier, viens et prie encore avec nous. Nous avons beaucoup de langues ici et nous sommes reconnaissants. Et ensuite, le frère Rousse va prendre le reste de la réunion. Remercie le Seigneur. Nous sommes reconnaissants pour tous nos frères qui servent dans le ministère de la parole.
Seigneur, notre Dieu, notre Père,
Herr, unser Gott, unser Vater,
nous te sommes reconnaissants en cette soirée.
Wir sind sehr dankbar für diesen Abend.
Nous croyons que toi, tu es présent au milieu de nous, Seigneur.
Wir glauben, dass du in unserer Mitte bist, o Herr.
Car tu nous as donné ta parole ce soir.
Denn du hast uns dein Wort heute Abend geschenkt.
Ta parole que nous avons reçue ce soir est oui et amen.
Dein Wort, das wir heute Abend empfangen haben, ist ja und amen.
Nous croyons que tes promesses sont la réalité.
Wir glauben, dass die Verheißung Realität sind.
Tu es fidèle, notre Père.
Du bist treu, unser Herr.
Ce que tu promets, tu le réalises.
Was du verheißen hast, das realisierst du.
D'âge en âge, tu demeures le même.
Wir danken dir von Herzen dafür.
Tu n'as jamais trompé, Seigneur.
Du hast dich nie geirrt, Herr.
Tu es vrai.
Du bist wahrhaftig.
Et tu nous aimes, Seigneur.
Du liebst uns, Herr.
C'est ainsi que tu nous as envoyé ta parole pour nous guérir.
Und deshalb hast du uns dein Wort gesandt, damit wir gesund werden.
Permets que notre foi soit grande ce soir.
Unser Glaube ist heute Abend groß geworden.
Bénis chaque cœur, bénis chaque âme.
Segne jedes Herz, jede Seele.
Et confirme ta parole.
Und bestätige dein Wort.
Car tu es notre Dieu.
Denn du bist unser Gott.
Nous croyons, Seigneur, et nous nous attendons à toi.
Wir glauben und wir erwarten es von dir.
Car la promesse est pour le temps fixé.
Denn deine Verheißungen sind wahr.
Nous la croyons de tout notre cœur.
Und wir glauben es von ganzem Herzen.
Car elle s'accomplira.
Dass sie sich erfüllen werden.
Elle s'accomplira certainement.
Und dass sie gewiss erfüllt werden.
Tu nous as dit, tu es allé nous préparer une place.
Du Du hast uns eine Stätte bereitet.
Seigneur, nous l'acceptons.
Wir haben es angenommen.
Nous le croyons.
Wir glauben es.
Que ta paix demeure dans nos cœurs.
Dass du in unserem Herzen
wohnst. Remplisse ce lieu de ta présence.
Und erfülle uns mit deiner Gegenwart.
Et que ta paix demeure dans nos cœurs.
Lebe du in unserem Herzen.
Seigneur notre Dieu.
Herr unser Gott.
Merci pour toutes choses.
Wir danken dir für all diese
que
Dinge.
Que ton amour puisse remplir nos cœurs.
Dass deine Liebe in unsere Herzen
wohnt. Qu'au sortir de ce lieu, Seigneur.
Und lass uns.
Au sortir de ce lieu, Seigneur,
dass du mit uns bist, Herr,
que chacun de nous dans ton amour puisse apporter sa part.
Dass jeder von uns deine Liebe in seinem Herzen trägt.
Nous avons reçu ce conseil divin.
Wir haben heute diesen Rat empfangen.
Et nous croyons que c'est ton amour, Dieu Tout-Puissant.
Und wir glauben, dass es deine Liebe ist, Herr,
en ce lieu,
an diesem Ort,
qui nous permet, Seigneur,
du hast uns gestattet,
de marcher avec toi,
dass wir mit dir wandeln dürfen.
Car avant que tu ne viennes, Seigneur,
bevor du wiederkommst, Herr,
nous devons marcher avec toi,
möchten wir mit dir wandeln,
comme Enoch,
so wie Henoch,
comme tous les saints,
und wie all die Heiligen,
et voir l'accomplissement de tes promesses.
Und dass wir die Erfüllung deiner Verheißungen sehen.
Bénis nos cœurs, Seigneur.
Segne unsere Herzen.
Tiens-nous par la main.
Denn du hast zu uns gesprochen.
Nous voulons marcher dans tes traces.
Wir möchten auf deine Straße ziehen.
Au nom de Jésus-Christ.
Im Namen Jesu Christi.
Notre Seigneur.
Unserem Herrn.
Et notre Rédempteur.
Und unserem Erlöser.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Wunderbar,
wunderbar, Jesus ist der Herr. Wunderbar, starker Gott, Friedenfürst ist er. Rettet mich, schützet mich vor der Sünde Macht. Wunderbar ist Jesus, der mir Sieg gebracht. Wunderbar, wunderbar, Jesus ist der Herr. Wunderbar, starker Gott, Friedefürst ist er. Rettet mich, schützet mich vor der Sünde Macht. Wunderbar ist Jesus, der mir Sieg gebracht.
Himmlischer Vater, wir danken dir.
Père Céleste, nous te remercions de tout notre cœur pour toutes les paroles merveilleuses que nous avons pu entendre, qu'elles puissent demeurer dans nos cœurs, tomber dans tous nos cœurs et porter du fruit pour toute l'éternité. Tu as parlé avec nous d'une manière si merveilleuse, nous ne pouvons rien faire d'autre que de louer ton Saint-Nom et toujours de nouveau chanter ta grâce et t'apporter la louange et l'adoration et l'honneur. Seigneur, notre Dieu, si nous ne le faisons pas, qui le fera? Mais nous sommes prêts à honorer ton saint nom et à le louer et à t'apporter l'honneur. Je te remercie encore pour ta sainte et précieuse parole. Et bénis-nous, Seigneur, de la plénitude de ta grâce aussi pendant cette nuit et conduis-nous demain à nous réunir ici encore dans la bénédiction. C'est ma prière profonde dans le saint nom de Jésus. Amen. Chantons Alléluia, sois glorifié.